Clé en main sur Radio Grand Ciel, RGC. Alain Roumestan, bonjour. D'abord, des remerciements à ceux et celles qui ont écouté l'émission sur le partenariat France-Cuba dans la nouvelle économie cubaine et qui m'ont exprimé leur avis. Aujourd'hui, en plein éclectisme, je vous propose de pénétrer les coulisses clés en main d'un groupe de hard rock qui vient de sortir son troisième album. Ce groupe, c'est Abigail, A-2-B-Y-G-A-I-L. Ce troisième album s'appelle Gun Control. J'ai rencontré il y a peu le bassiste du groupe pour qu'il nous retrace toute l'histoire du groupe et qu'il nous fasse vivre de l'intérieur, son groupe. L'interview a été enregistrée le 19 septembre dans une brasserie de Douai. Clé en main sur Radio Grand Ciel, chaque mois, essaie de vous faire découvrir les coulisses des faits d'actualité. de faits historiques, du monde politique, du monde économique, du monde littéraire, culturel, tant national qu'au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, le monde de la musique, avec un groupe de hard rock, Abigail, un groupe qui a fait parler de lui, qui fait parler de lui, qui va faire parler de lui, un groupe qu'on a écouté, un groupe qu'on écoute et un groupe qu'on va écouter. Pascal Rosic, bonjour.
Bonjour Alain.
Vous êtes le bassiste du groupe et gestionnaire de la communication du groupe. D'abord, pourquoi Abigail ?
Pourquoi Abigail ? Alors, les fans de ce style musical posent la question régulièrement parce qu'en fait, il s'avère qu'Abigail est le titre d'un album d'un groupe qui a existé il y a de ça une trentaine d'années, qui tourne encore, qui s'appelle Mercyful Fate. Abigail est le titre d'un de leurs albums. Mais aucun rapport, en fait. On cherchait simplement à nos débuts, quand le groupe s'est créé en 2010, on a cherché évidemment un nom, on a établi une petite liste, un peu au hasard, et puis les avis se sont rassemblés autour de ce nom qui nous paraissait accrocheur. Et donc on a choisi Abigail sans forcément qu'il y ait une raison particulière, parce qu'on trouvait la consonance, la phonétique du nom intéressante. Voilà, tout simplement.
Le groupe... Sa genèse, il est né comment, avec qui et à quelle date ?
Alors donc, la formation du groupe remonte à 2010. C'est Luc De Bruyne, donc un des deux guitaristes du groupe, qui est également musicien pro, qui est à l'origine du groupe. Je connais Luc depuis maintenant, allez, trentaine d'années. Et puis il m'a proposé en 2010 de monter ce groupe avec lui. Donc on s'est retrouvés à deux à la recherche de musiciens. Plusieurs line-up se sont succédés durant ces quelques années. On est arrivé à la stabilité depuis maintenant 3 ans avec un groupe qui ne change pas, qui ne bouge pas. Donc des musiciens sont passés dans Abigail. Et là, on est arrivé à l'équilibre avec un groupe stable, on va dire. Voilà.
Est-ce que tu peux nous présenter le groupe, c'est-à-dire les musiciens ?
Alors donc Luc, qui est à l'origine du groupe, Luc De Bruyne, qui est musicien professionnel. À la guitare et à la composition également, on aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. C'est lui qui compose les morceaux d'Abigail. Guillaume Rue, de l'autre côté, l'autre guitare, qui lui est enseignant, détaché maintenant auprès du ministère de l'Éducation nationale. Bertrand Roussel, notre nouveau, le petit dernier, oui, parce qu'il est au chant depuis maintenant 3 ans, il nous a rejoint juste pour l'album Electric Lady, donc en 2017. Donc juste avant, il y a presque 3 ans. Voilà, Bertrand Roussel, Anthony Deron, le petit genou, on va dire, le petit genou qui a 24 ans derrière les fûts à la batterie. Et moi-même, donc Pascal, à la basse, depuis le début, depuis 2010.
Ton parcours
musical, j'ai commencé à jouer de la basse il y a de ça une éternité, du haut de mes 57 ans bientôt. Donc j'ai joué dans quelques petits groupes il y a de ça très longtemps, j'avais laissé de côté la basse, et puis quand Luc m'a contacté donc en 2010 pour me proposer de jouer avec lui et de créer un groupe, et ben voilà, je m'y suis remis, et puis bon, voilà, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, et bon, formation autodidacte au niveau de la basse, mais j'ai beaucoup appris au travers avec le groupe et avec Luc depuis ces quelques années, j'ai énormément appris, mais bon, formation autodidacte, voilà.
Tout groupe a des influences. Les influences d'Abigail, parce que c'est vrai que c'est une musique qui est particulièrement cadrée, qui est particulièrement forte dans le bon sens du terme, qui est charpentée, qui a une colonne vertébrale. Les influences.
Les influences à l'origine sont plutôt celles de Luc, puisque c'est lui qui compose. Donc il est tombé un petit peu dans la marmite du hard rock, comme moi-même dans les années fin 70, début 80. Donc les influences vont de groupes très connus de l'époque, dont certains tournent encore, comme AC/DC. Puis Led Zeppelin, par exemple, Black Sabbath, des groupes de ce style-là ont orienté quand même notre musique. Donc on peut citer globalement Deep Purple, évidemment. Donc voilà, un petit mélange de ces fameux grands groupes qui ont sévi dans les années 70-80 et qui continuent pour certains à écumer les scènes mondiales. Donc ça tourne autour de ça. On va dire qu'on fait du hard rock qu'on qualifie de classique. We'll be right back.
surge in every instance. A flash just made for thunder. A thrilling smell of powder. When your hand gets around a crib, I know you're in for a trip. She's out of luck.
Au niveau de la création, donc, musicalement parlant, qui crée et comment créez-vous ?
Alors, donc, c'est Luc De Bruyne qui compose toutes les musiques du groupe. C'est Guillaume, l'autre guitariste, qui est prof d'anglais. Donc, ça facilite les choses, il écrit nos textes. Les avancées technologiques font que on nous a beaucoup facilité la tâche. On travaille en présentiel, entre guillemets, puisqu'on répète régulièrement, mais on travaille aussi à distance avec les fichiers partagés que nous offre par exemple la Dropbox, etc. etc. Luc crée des morceaux, crée la charpente des morceaux, il nous diffuse ces morceaux par ces fichiers partagés sur le net. On les travaille de notre côté, on se réunit, on les met en place, en répétition, et on voit si ça roule, s'il y a des changements à apporter, si ça peut fonctionner comme ça, s'il y a des arrangements à faire. Donc globalement, ça fonctionne comme ça. Et ensuite, Guillaume vient greffer les textes qu'il a en tête. Et puis, ça, voilà. On tourne comme ça depuis 2010, c'est notre façon de travailler.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu des textes, justement ? Bon, le public français et l'anglais, ça fait deux, quelquefois. Mais pas toujours, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui comprennent l'anglais. Les textes.
Alors, multiples et variés. On va dire qu'on retrouve un petit peu le sens, sans que ce soit péjoratif, le sens primaire de certains textes anglais en ce qui concerne rock'n'roll, c'est-à-dire la vie sur la route, les filles, la musique, etc. Et puis en ce qui nous concerne, parfois des textes un petit peu plus profonds. Par exemple, sur Electric Lady, notre avant-dernier album, puisque Gun Control va sortir dans quelques temps, sur Electric Lady, il y avait un morceau, un titre qui parlait du débarquement. Et l'auditeur se trouvait à la place des premiers soldats dans la barge de débarquement qui s'ouvrait sur les plages de Normandie. Donc il y a des textes beaucoup plus profonds, des textes qui parlent des relations humaines également, et puis des textes, on va dire, plus légers, plus passe-partout.
Venons-en maintenant à la partie la plus difficile dans un groupe. Créer, c'est bien. Faut-il encore produire ? Faut-il encore se faire connaître ? Faut-il encore gérer administrativement le groupe ? Voir avec les maisons de disques, etc. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail ? Puisque bon, l'émission va dans les coulisses. Allons dans les coulisses d'Abigail.
On dit toujours que, moi j'aime bien cette expression, il ne suffit pas d'avoir le savoir-faire, il faut encore le faire savoir. Voilà. Et donc, il ne suffit pas de créer une musique qui tienne debout, entre guillemets, si elle reste confinée à notre studio de répétition, ça n'a pas grand intérêt. Donc effectivement, il y a tout un pôle du travail du groupe qui consiste à gérer le groupe administrativement, puisque nous sommes sous statut asso. Donc il a, pour être vraiment dans les clous, on a créé une asso Abigail. Donc administrativement, on est très carré, on est dans les clous. Et puis il y a aussi tout le pan de communication, gestion de la communication qui est très chronophage. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir l'attitude d'un groupe professionnel, bien que ne l'étant pas. On essaie de mener toutes nos actions en étant, en se rapprochant d'une attitude pro et en faisant en sorte que toutes nos démarches suivent ce fil conducteur. Que ce soit la recherche de scènes, la recherche de concerts, la recherche aussi de studios d'enregistrement, la recherche du meilleur son. Tous ces pôles qui concernent notre musique, on essaie d'avoir une attitude la plus professionnelle possible. Donc, ça prend du temps, c'est très chronophage, chacun met la main à la pâte, mais c'est vrai que quand on n'est pas groupe pro, qu'on a, à part Luc, quasiment tous un boulot à côté, c'est un peu compliqué, mais on a la passion, on a l'envie, donc on le fait avec plaisir. Les enregistrements se passent où ?
Les avancées technologiques de ces dernières années nous permettent de gérer une partie des choses nous-mêmes. Chez Abigail, on fonctionne de la manière suivante, depuis le début d'ailleurs, depuis 2010. Les guitares et les basses sont enregistrées maison, puisque Luc possède un petit studio qui nous permet de fonctionner comme ça. Donc les guitares et les basses sont faites maison. Ensuite, en studio, la partie incontournable au niveau du studio, ce sont les voix et les batteries, puisqu'il est très compliqué d'enregistrer des voix, des batteries maison, même avec un matériel un peu sophistiqué, on n'atteint en règle générale pas le niveau que peut avoir un studio. Donc on se partage entre du fait maison et puis l'approche plus pro de, quand on s'adresse à un studio. En ce qui concerne la production d'albums, à proprement parler, le mixage, par exemple, pour l'album qui va sortir, il a été fait maison. Par contre, masteriser l'album, on l'a confié à un studio belge parce qu'on n'était pas équipé pour le faire. Et comme on veut essayer d'obtenir le son qui nous convienne le mieux et le meilleur possible, il y a une partie des choses incontournables qu'on est obligé de faire en studio.
Les Hauts-de-France et la Belgique, donc, en quelque sorte, pour la partie production, la partie studio.
Voilà, les Hauts-de-France et la Belgique. Hauts-de-France, tout ce qui concerne les prises de son et le mixage. La Belgique, un studio à Liège qui nous a masterisé l'album. Ce qui n'était pas le cas pour l'album précédent. L'album précédent était totalement fait dans le nord de la France. Le mixage et le mastering avaient été confiés à un studio non loin de chez nous.
Dans l'émission précédente que j'avais faite sur Let's Go, j'avais présenté le groupe Dire Straits. Et Dire Straits a commencé par des bars, par des cafés, par des arrière-salles, puis des salles plus importantes. Vous en êtes où, vous, par rapport à cette progression ?
On a commencé de façon, je vais dire, très académique, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe démarre, inévitablement, on s'adresse forcément au circuit des bars-concerts de la région. Donc on s'est adressé dans nos démarches, premièrement dans les bars-concerts qui accueillaient des groupes dans notre créneau, hard rock, rock. Donc voilà, on a écumé ces lieux-là, mais en ayant toujours en tête de progresser. Et donc parallèlement, on s'adressait dans nos démarches également à des salles de renom, à des festivals de renom, en envoyant nos albums en France également, et puis également à l'étranger, dans l'espoir de ne pas se confiner à ce réseau de bars-concerts qu'on ne néglige pas, et c'est pas du tout péjoratif, parce qu'on aime beaucoup jouer dans les endroits très, très, très sympas, avec du monde, dans une ambiance très, très bar, quoi, ces lieux comme ça, mais bon, on est amené, avec notre logique de démarche pro, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans le son du groupe, on est amené obligatoirement à essayer de trouver aussi des scènes importantes pour pouvoir se produire dans des conditions professionnelles.
Vous avez d'ailleurs sur votre site les futurs concerts de la fin d'année 2019. Quelles sont les salles les plus importantes que vous avez fréquentées ces derniers temps, ou que vous allez fréquenter?
Un lieu incontournable pour nous, puisqu'il abrite un festival très connu au nord de Paris, dans notre créneau, le créneau du hard rock, c'est le Rennfest. Donc Rennes est une commune située à proximité de Valenciennes. Nous avons eu l'occasion d'y jouer en 2014 et 2017. Chaque année, ce festival regroupe des artistes de renommée nationale et internationale. Cette année, il y avait notamment Glenn Hughes, l'ancien bassiste de Deep Purple. C'est un festival renommé, donc, qui a lieu mi-septembre chaque année, et donc dans des conditions professionnelles, avec une très belle scène. Donc, voilà. Donc ce festival-là, par exemple, on y a joué deux fois. Mais également, on a eu l'occasion de nous produire également dans des festivals en région qui accueille également ce genre de musique dans de très belles salles, le Bullion Rocks, le Andy Rock Bike, enfin bon bref, on en a quelques-unes à notre actif. On s'exporte également, puisque on va avoir l'occasion d'aller jouer à Laval début octobre dans une salle, dans une très très belle salle qui s'appelle La Fabrique à Bonchamp et Laval. On est invité par un groupe lavallois à nous produire avec eux, donc on réussit quand même très régulièrement, et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus souvent possible, on réussit à caser des dates, je vais dire très importantes, plus importantes que des bars-concerts, mais des dates dans des conditions de production très intéressantes.
Donc du pain sur la planche en quelque sorte. Au niveau des équipes qui vous suivent dans les concerts, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, pour les auditeurs, quelles sont ces équipes et qui travaille avec vous pour organiser un concert de A à Z? Ce n'est pas chose facile.
On essaie depuis 2010 d'avoir un fonctionnement, alors ça peut paraître un petit peu antinomique, mais pas forcément, dans Abigail, un fonctionnement pro, comme je le disais, mais également très convivial et familial. C'est-à-dire que on a toujours essayé de s'associer avec des amis, des gens qu'on connaissait. Notre ingénieur son est un ami depuis maintenant 35 ans, par exemple. Notre photographe, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis assez longtemps également. Nous avons également à nos services entre guillemets, une petite équipe d'étudiants qui est dont la mission va être de tourner un clip pour l'album qui va sortir. Mais là aussi, ce sont des gens qu'on connaît. Donc, on essaie de s'entourer de gens compétents, mais également avec lesquels, humainement parlant, on sait que le courant va passer et on va pouvoir fonctionner ensemble. On tient énormément à ça, à ce côté petite famille qui nous réussit pas mal depuis le temps, parce qu'on pense que dans la musique en général, hein, et ce créneau-là en particulier, si on est déjà content de se retrouver avec les gens avec lesquels on travaille, c'est déjà un premier pas, et c'est déjà juste ça, c'est déjà agréable de le faire. Donc on fonctionne comme ça. Donc il y a les équipes techniques qui nous suivent très régulièrement. On a un technicien avec nous qui vient nous filmer très régulièrement sur son temps libre, et qui nous accompagne en tournée, mais également en studio. Ils sont là en répétition, ils ne comptent pas leurs heures pour nous accompagner et puis pour nous faciliter la tâche. Donc sans eux, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe.
Nothing. Quelques mots sur les trois albums que vous avez réalisés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter assez rapidement ?
L'album éponyme qui est sorti en 2014, donc c'est un EP, donc un 5 titres qui s'appelait Abigail, avec un chanteur qui n'est plus le même que celui que Bertrand, donc que celui à l'heure actuelle. Donc on était au stade, je dirais, de l'ébauche du groupe, c'est-à-dire qu'on était à nos balbutiements, on avait quelques morceaux, quelques compositions qui étaient prêtes. On a voulu les coucher sur album pour avoir l'objet en main. Et puis ensuite on a eu quand même, suite à cette EP, la volonté de progresser au niveau de la production. Nous sommes entrés donc en un studio de renommée régionale pour l'album Electric Lady qui est sorti en 2017. Donc voilà. Et puis 2 ans plus tard, donc 2019, l'album Gun Control qui va sortir à la fin du mois. Donc nous en sommes là, un EP et deux albums 12 titres.
Nous allons actuellement, dans le cours de l'émission, écouter un certain nombre de morceaux. Quel pourrait être le morceau emblématique d'Abigail qui le définirait le mieux ?
Oula !
Il y en a sans doute plusieurs, évidemment.
Je vais citer.
Non, on peut en citer plusieurs.
Simplement le morceau qui est celui qui a été la première composition du groupe, qui s'appelle Long Black Coat, qui termine tous nos concerts systématiquement depuis maintenant 2010. On en est à 150 ou 160 concerts, je pense, et systématiquement c'est ce morceau là qui termine nos concerts. Le morceau d'intro également qui est quasiment toujours le même, qui s'appelle Norman. Une petite anecdote, Norman est un morceau qui a été écrit pour une BO de série télévisée qui n'a jamais vu le jour, mais qui devait sortir en 2017, et qui, bon, malheureusement n'a pas vu le jour, et donc ce morceau Norman devait figurer sur la BO. En gros, c'était l'histoire de la mort qui prenait un peu des vacances, qui en avait marre, et puis qui prenait vacances dans le nord de la France. Norman, ce morceau-là, qui ouvre nos concerts, et puis j'en citerai 2 ou 3 autres qui sont dans la veine de morceaux que pouvait produire ACDC. Gun Control, le titre de l'album qui vient de sortir, Headbanger, Electric Lady, donc des morceaux très, très, très rock'n'roll, on va dire. Voilà.
Au niveau esthétique, ce qui m'a surpris dans la présentation des albums, c'est qu'il y a une recherche tout à fait particulière, avec, disons, un souci de présenter quelque chose de beau. C'est un bel objet qu'on a dans les mains, en quelque sorte. Et qui le travaille, notamment sur Gun Control, magnifique personne avec un revolver rouge et puis des ailes absolument magnifiques.
Alors, on voulait que se retrouvent sur nos albums des éléments incontournables. Le nom du groupe, évidemment, avec une police particulière, qui est la marque de fabrique de groupe depuis le début. Et puis, première chose qui apparaissait sur Electric Lady déjà, mais qui apparaît également sur Gun Control, les fameuses ailes. Les fameuses ailes qu'on a adoptées comme signe distinctif du groupe. Donc on voulait qu'il y ait ces éléments-là. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont travaillé sur Electric Lady et sur Gun Control. Là, c'est une graphiste. Comme je disais tout à l'heure, c'est une graphiste qu'on a trouvée parmi les gens qu'on connaissait. Voilà, et on est entré en contact avec elle, et puis elle a créé ce personnage. Et je pense que très certainement dans l'avenir on retrouvera ces éléments incontournables que sont le nom du groupe avec la police, évidemment, mais je pense que les ailes auront un rôle important à jouer, notamment sur les albums, mais également scéniquement, puisque l'univers d'Abigail ce sont les albums, mais c'est également la scène. Et la scène, en ce qui concerne aussi les visuels présents sur scène, on retrouvera très certainement les ailes dans les concerts futurs.
I've got to tell you back.
le 27 septembre donc va sortir l'album. Je crois qu'il y a une fête organisée, un concert organisé le jour de cette sortie d'album. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement au nom du groupe la totalité de cette fête?
Et les, enfin, oui, événement un peu particulier parce que chose très importante qui se passe pour Gun Control et qui ne figurait pas pour Electric Lady. Electric Lady a été un album autoproduit de A à Z par le groupe. Là, nous avons la chance, l'occasion et la chance
avec notre label,
de signer avec notre label MNO Music, label de Montpellier. Signer avec un label, ça veut dire essayer d'avoir une autre dimension. Donc c'est une sortie nationale. L'album sera présent dans les bacs un peu partout en France. On pourra le commander dans les très bonnes crèmeries, voilà. Les magasins classiques qui se chargent de la distribution d'albums. Donc ça c'est un premier élément très important. Et donc il fallait obligatoirement, avec cet événement du 27 septembre, la sortie nationale de l'album, parallèlement organiser quelque chose qui soit particulier. D'où la mise sur pied, la prévision de ce concert le 27 septembre, vendredi 27 septembre, juste à côté des villes, à Entier-en-Wet. Ce concert qu'on appelle release party, puisque c'est concert organisé pour la sortie de l'album, événement très particulier, pour lequel on a convié évidemment le maximum de gens possible venir nous voir, mais également on a insisté sur le fait, et on disait tout à l'heure qu'on a une démarche, on essaie d'avoir une démarche pro. On est soutenu depuis quelques années par beaucoup de médias dans la région, beaucoup d'organisateurs, beaucoup d'assos qui organisent des concerts. Donc on a tenu un petit peu à remercier ces gens-là en les conviant juste avant l'ouverture des portes le 27 à une petite réunion entre nous, le pot de l'amitié, etc., la remise de l'album. Et donc il y aura cet événement-là aussi marquant. Beaucoup de monde a répondu présent dans ces métiers de médias du Nord. Et donc beaucoup de monde a répondu présent. Donc c'est pour nous un événement très très important, puisqu'il y a le contact avec ces médias, ces assos, ces orgas, puis ensuite la découverte grand public de l'album entier joué dans son intégralité ce soir-là. Donc une heure et demie de concert avec un environnement plus particulièrement dédié à cet album.
Tu parlais des médias. Ce que j'ai pu lire déjà sur le groupe est très élogieux. Quels sont les médias sur lesquels vous avez déjà pu vous exprimer en tant que créateur, je dirais, pas simplement pour faire état d'un concert ou pour faire état, disons, de la sortie d'un disque, mais en tant que créateur, un peu comme on le fait aujourd'hui pour la radio.
On a quelques émissions radio spécialisées dans les Hauts-de-France, plus particulièrement tournées vers le rock en général, mais le hard rock ou le métal ou d'autres courants des musiques amplifiées, qui nous accueillent maintenant quasiment systématiquement lorsqu'on a un événement particulier à mettre en avant. Donc il y a dans la région beaucoup d'émissions radio, bon, je ne peux pas en citer énormément, mais il y a Medley RCV Lille notamment, qui est la radio qui nous soutient depuis le début et qui nous accueille régulièrement. On a donc pour la sortie de cet album par exemple une douzaine de rendez-vous en l'espace d'un mois, un mois et demi, avec des radios locales ou régionales pour la promotion de cet album. Donc c'est une marque pour nous très importante qui nous confirme un petit peu que les gens s'intéressent un tant soit peu à ce que fait Abigail. Le fait de demander systématiquement de nous recevoir, pas que dans la région. On a eu quelques contacts en Vendée. On a fait une interview téléphone avec une émission vendéenne notamment, avec une plateforme qui se trouve dans le 74, donc en Savoie, au Camp Folie. Bref, Abigail s'exporte également sur les ondes, en Belgique également, on est accueilli sur Bruxelles et on va jouer live également du côté de Tournai. Donc il y a un pôle vraiment d'émissions radio assez important dans la région et également en Belgique, qui nous accueille très régulièrement quand on a une info à faire passer. We'll be right back.
J'incite d'ailleurs les auditeurs à lire l'encyclopédie du rock Made in France, où vous avez un article très élogieux et qui est dans la réalité, pas simplement élogieux. Le public maintenant, votre public, des jeunes, des moins jeunes?
Des quinquas?
Des quinquas?
Non, oui,
pas que,
voilà, c'est ça. Étant donné que la moyenne d'âge des membres du groupe est relativement élevée, on va dire, on tourne tous autour de la cinquantaine, sauf notre petit batteur qui n'a que 24 ans. On a un public quand même qui, dont la culture musicale remonte aux années fin 70-80 dans ce créneau-là, le hard rock. Donc forcément, on a des gens qui sont autour de la cinquantaine, mais on a également des gens plus jeunes qui viennent assister à nos concerts. Mais ça, c'est un signe un peu général de tous les concerts de hard rock en particulier. On a un peu toutes les tranches d'âge. Je citais tout à l'heure le Rhemfest. Donc le fameux festival au nord de Paris, ici, du côté de Valenciennes. C'est également le cas du Hellfest, on aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots tout à l'heure. Ce sont des festivals dédiés aux musiques extrêmes, mais qui réunissent des tranches d'âge très, très, très différentes.
Ce public, il est particulièrement dynamique, il écoute, il joue dans la salle, ou que fait-il?
Très participe, oui, participe.
Il participe.
Participe énormément, oui, bien sûr. Alors loin de l'image que les personnes qui ne connaissent pas le milieu veulent bien coller aux spectateurs lambda de concerts de ce style, le hard rock ou le metal. C'est un public, je fréquente les concerts depuis très très longtemps, jamais eu affaire à de gros soucis dans les salles, donc c'est un public bon enfant, c'est un public qui un petit peu se défoule. Parce que la musique est peut-être qualifiée parfois de violente, mais c'est un public très bon enfant avec lequel, en règle générale, il n'y a quasiment aucun problème.
Comparaison avec des concerts comme Hellfest, par exemple.
À notre niveau, c'est un peu le même principe, tout simplement. Hein. Voilà, on ne draine pas 80 000 personnes, évidemment. Mais c'est le... C'est le même public. C'est le même public, jeune et moins jeune, attiré par cette musique-là. C'est exactement le même public que le grand festival.
Le groupe Rammstein, ça t'évoque quoi? Parce qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Il est souvent présenté comme le groupe en quelque sorte phare de ces dernières années et de ce présent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et qu'est-ce que le groupe en pense si, Vous avez déjà réfléchi à cette question-là.
Oui, on a des goûts très, très variés en ce qui concerne les musiques amplifiées dans le groupe. Luc, qui compose, a plutôt une culture, je dirais, classique. On parlait tout à l'heure de Led Zeppelin, de Black Sabbath. Notre chanteur, Bertrand, lui, a également, dans sa discographie, beaucoup de groupes qu'on pourrait qualifier de métal extrême. Moi, personnellement, Rammstein, je les ai vus deux ou trois fois en concert. Je suis fan. Tout le monde ne l'est pas dans le groupe, mais bon, c'est un groupe phare dans ce créneau musical. Ils sont plus métal, hein. Ils sont pas vraiment hard rock, c'est plus du métal. Mais c'est un groupe phare depuis maintenant assez longtemps. Ça fait très très longtemps qu'ils existent dans ce milieu-là. Et bon, ils ont acquéri une stature internationale.
On leur reproche souvent d'avoir un côté visuel extrêmement destroy. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bah, ils jouent avec ça, c'est uniquement...
Vous jouez la musique, point.
Oui, voilà, on n'a pas de pyrotechnie, on n'a pas d'effet visuel très particulier. Rammstein joue avec le feu, on va dire. Voilà. C'est un groupe qui s'est spécialisé dans...
spécialisé dans le lance-flamme, on va dire, oui, et puis aussi dans la provocation, parce qu'on les a accusés à tort durant de nombreuses années d'avoir des accointances, notamment avec l'extrême droite. Ils se sont toujours défendus et ont écrit d'ailleurs des morceaux qui prouvent bien le contraire. Ils sont à la limite de la provocation, mais c'est toujours très étudié et très fin. Et bon, ils ne sont jamais tombés dans le mauvais côté des choses, quoi. Donc, voilà. Et puis visuellement, scéniquement, c'est très impressionnant. C'est plutôt un groupe de salles. Je les ai vus moi en extérieur où il y a le côté visuel ressort moins qu'en salle, je pense. C'est vraiment un groupe de salles.
C'est intéressant de parler du hard rock parce que c'est vrai que la réputation du hard rock et des musiciens hard rock sont vus comme des gens qui ont des présupposés politiques et autres, alors que pour 99% des groupes, ils n'ont absolument aucune connotation extrême droite, fasciste, nazi ou autre.
Évidemment, je disais tout à l'heure que en 300 ou 400 concerts auxquels j'ai assisté depuis maintenant 40 ans, j'ai jamais vu particulièrement de gros débordements. C'est une musique qui rassemble des gens de tous horizons socioculturels, qui n'est pas connectée politiquement, qui serait même plutôt connectée politiquement un peu à gauche, je pense, mais en aucun cas, qui ne pourrait souffrir de comparaison avec des milieux extrémistes. Jamais vu ça.
Tu nous as parlé plusieurs fois de Rhemfest, donc près de Valenciennes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour conclure cette interview, pour faire connaître là aussi ce festival du nord de la France qui, depuis 20 ans, existe, qui draine énormément de personnes et qui, au niveau national, par contre, n'est pas très connu.
Alors,
à ma connaissance.
Oui, mais bon, il y a peut-être aussi une question de philosophie des organisateurs. Le Rhemfest, c'est donc un festival qui existe, effectivement, ça sera sa 22e édition l'an prochain, qui regroupe chaque année approximativement 1000 spectateurs, ce qui n'est pas énorme pour un grand festival avec l'affiche qu'il propose, puisqu'on a sur deux jours des artistes de renom. Moi, ça fait 6 ou 7 ans que j'y vais. Il y a une atmosphère familiale. Rhemfest, c'est un festival en extérieur, dans un joli parc. On y rencontre toujours 1000 personnes, on y rencontre énormément de gens qu'on connaît. On passe une journée, une superbe journée. L'avantage aussi, c'est de pouvoir côtoyer les artistes qui viennent très régulièrement dans le public, boire un verre avec les gens, en dédicace au milieu du public. Donc ça, c'est quelque chose que peut pas retrouver aussi facilement dans des festivals tels que le Hellfest, tels que le Download ou des très gros, très grosses organisations ailleurs en France. Donc il y a ce côté-là qui est très agréable. Il y a aussi le prix qui est très abordable vu l'affiche proposée. Donc voilà, c'est un festival à taille humaine et géré par des bénévoles, puisque c'est une asso qui le gère. Donc il y a que des bénévoles qui assurent cet événement depuis maintenant très longtemps, qui y mettent énormément de cœur, et il est suivi par un public de passionnés. Ce sont toujours les mêmes gens qui y reviennent, et donc voilà, donc ça perdure, on croise les doigts, j'espère que ça va durer très longtemps.
Dernière question, en quoi le hard rock est absolument nécessaire à notre société actuelle?
Question philosophique.
Question, oui, parce que c'est vrai que les groupes fonctionnent, le public est là, donc c'est qu'il y a un besoin.
On y trouve peut-être le plaisir de, dans une certaine mesure, de se défouler, peut-être, le plaisir d'écouter une musique forcément à laquelle on adhère, qui fait partie de notre culture musicale, le plaisir aussi de se retrouver entre amis, ce que je disais tout à l'heure pour le Rennfest, ça c'est valable aussi, le plaisir d'écouter la musique qu'on aime, tout simplement, mais ça c'est valable aussi pour le jazz, pour le blues, pour d'autres styles musicaux. Je pense pas que le hard rock déroge à la règle, tout simplement le fait d'assister simplement à un concert d'une musique qu'on aime, sans particulièrement qu'il y ait, je pense, une raison autre que l'amour de la musique et l'envie de passer du bon temps, tout simplement. À ma connaissance, je pense pas que ce soit vraiment qui est vraiment une raison sociétale à ces événements. Partager du bon temps en écoutant la musique qu'on aime, point.
Et c'est essentiel.
Merci. Jump out.
pourrez découvrir le premier CD d'Abigail dans ma nouvelle émission Let's Go d'octobre, le mardi à 20h, le jeudi à 17h30, le samedi à 6h30. Et naturellement, vous retrouverez ce clé en main ce vendredi soir à 20h et vendredi prochain à 21h. Prenez soin de vous et des autres. Clé en main sur Radio Grand Ciel, RGC, la radio qui rapproche les hommes, qui nous rapproche. Run through me. I'm standing.